L'île du crâne de Anthony Horowitz, chapitre 2, le prospectus, page 17. Le lendemain matin, un semblant de sérénité était revenu dans la maison Elliot. David n'osait pourtant pas s'aventurer hors de sa chambre, mais ses parents étaient, eux, attablés devant leur petit déjeuner, comme si rien ne s'était passé. « Tu te sens mieux aujourd'hui, mon petit pot de miel aux noisettes et aux fruits secs ?» demanda tendrement Madame Elliot. « Je ne suis pas du muesli. » rétorqua M. Elliot en s'en servant justement une portion. « Et cette blessure, ma chère ?»« Pas trop douloureuse, merci mon chéri, » répondit Madame Elliot. Ils mangèrent leurs céréales en silence. Comme à son habitude, M. Elliot lut le Financial Times de la première à la dernière page, en grinçant des dents, en pouffant et parfois en gloussant lorsqu'il découvrait que l'un de ses clients venait de faire faillite. En face de lui, Madame Elliot, vêtue d'un peignoir rose vif assorti à ses bigoudis, se cachait derrière le Daily Mail et versait un petit verre de vodka dans son bol de céréales. Elle aimait son petit déjeuner relevé. Ce n'est qu'au moment d'entamer leur œuf à la coque qu'ils se souvinrent de David. Monsieur Elliot était en train de fendiller la coquille avec une petite cuillère, quand tout à coup, son regard étincela, sa moustache frémit. « David !» grogna-t-il. « Veux-tu que je l'appelle ?» proposa Madame Elliot. « Qu'allons-nous faire de lui ?» dit Monsieur Elliot, en recommençant à marteler son œuf, mais trop fort cette fois. L'œuf explosa, éclaboussant Madame Elliot. Avec un soupir sonore, Monsieur Elliot jeta sa cuillère et plaqua violemment sa main sur le Financial Times. « J'ai toujours espéré qu'il prendrait ma suite dans la banque, » reprit-il. « C'est pourquoi je lui avais offert une calculette de poche pour ses 7 ans et un attaché case pour ses 8 ans. » Depuis 10 ans, chaque Noël, je lui fais la faveur spéciale de l'emmener à la bourse. Et quel remerciement en ai-je, hein? Renvoyé du collège? » rugit Monsieur Elliot en saisissant le journal qu'il déchira en 1000 morceaux. Lessivez, fini. À ce moment, on entendit dans le hall le bruit du courrier tombant dans la boîte aux lettres. Madame Elliot alla le chercher, pendant que son mari continuait de fulminer tout seul. « Si je pouvais trouver une école pour le dresser, » marmonna-t-il. « Pas un de ces endroits ramollis d'aujourd'hui, mais un établissement où l'on croit encore à la discipline. Dans ma jeunesse, je savais ce que la discipline voulait dire. De nos jours, la plupart des enfants ne savent même pas épeler le mot. Le fouet, voilà ce qui leur manque. Un bon coup de badine sur les fesses. » Madame Elliot revint dans la salle à manger avec l'habituel brassée de factures et une grande enveloppe marron. « Groucham Grange ?» murmura-t-elle d'un air dubitatif. « Comment ? C'est ce qui est écrit là, » explique-t-elle en lui tendant l'enveloppe. « Elle a été postée du Norfolk. » Monsieur Elliot brandit un couteau. Sa femme plongea immédiatement sous la table, mais il se contenta de décacheter l'enveloppe. « Étrange, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est, mon très cher ? » questionna nerveusement Madame Elliot en risquant un œil par-dessus la table. « Un prospectus ?» « Pour un collège de garçons, » répondit Monsieur Elliot en roulant son fauteuil devant la fenêtre, par où le soleil pénétrait à flots. « Mais comment quelqu'un peut-il savoir que nous cherchons justement une nouvelle école pour David ?»« Peut-être par le collège béton, » suggéra sa femme. « Je suppose. » Monsieur Elliot ouvrit la brochure, une lettre en glissa, il la déplia et lut à haute voix. « Cher Monsieur Elliot, » Vous êtes-vous jamais demandé où trouver un collège qui dresserait votre fils? Pas un de ces endroits ramollis d'aujourd'hui, mais un établissement qui croit encore à la discipline. Et vous a-t-il jamais venu à l'idée que, de nos jours, la plupart des enfants ne savent même pas épeler le mot « discipline » Monsieur Elliot abaissa la lettre. « Dieu du ciel !» s'exclama-t-il. « C'est extraordinaire !»« Quoi ?» demanda Madame Elliot. « J'employais exactement les mêmes termes il y a quelques instants à peine, presque mot pour mot. »« Continue, » dit Madame Elliot. Monsieur Elliot reprit la lettre. « Permettez-nous de vous présenter Groucham Grange. Comme l'indique la brochure ci-jointe, nous sommes un pensionnat et nous offrons un environnement unique à des enfants âgés de 12 à 16 ans qui se sont montrés réfractaires aux méthodes modernes d'enseignement. Groucham Grange est situé sur une île privée, au large de la côte du Norfolk. Aucun service régulier de ferry ne dessert l'île. Il n'y a donc pas de congé fixe. En réalité, les élèves n'ont droit qu'à un seul jour de vacances par an. Les parents ne sont jamais invités à l'école, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, et seulement s'ils savent nager. Je suis certain que votre fils profitera pleinement des excellentes méthodes de Groucham Grange et du niveau élevé d'études. J'attends avec impatience de vos nouvelles dans la prochaine demi-heure. Sincèrement votre, John Kilgrove, directeur adjoint. Une demi-heure ? S'exclama Madame Elliott. Ça ne nous laisse guère de temps pour prendre une décision. La mienne est déjà prise, aboya Monsieur Elliott. Un seul jour de vacances par an ? Ça, c'est une idée. Il feuilleta le prospectus qui, curieusement, ne contenait aucune photo et qui était rédigé à l'encre rouge sur une sorte de parchemin. « Écoute ça, » reprit M. Elliott. « Ils enseignent toutes les matières, avec un accent particulier sur la chimie, l'histoire ancienne et les études religieuses. Ils ont deux laboratoires de langue, une salle d'informatique, un gymnase entièrement équipé et c'est l'unique établissement du pays à posséder son propre cimetière. Ils ont des classes d'art dramatique, de musique, de cuisine, de modelage et même un cours d'astronomie. Bah, « à quoi sert un cours de gastronomie ?» s'étonna Madame Elliott. « J'ai dit astronomie, l'étude des étoiles, femme stupide !» corrigea Monsieur Elliott en lui donnant un coup de brochure sur la tête. « C'est la meilleure chose qui soit arrivée cette semaine. Apporte-moi le téléphone. » Monsieur Elliott composa le numéro qui était inscrit au bas de la lettre. Il y eut un chointement, puis une série de déclics. Madame Elliott poussa un soupir. Monsieur Elliott chointait et cliquetait toujours quand il était excité. Et quand il était de très très bonne humeur, il sifflait avec son nez. « Allô ? » dit-il lorsque la communication fut établie. « Puis-je parler avec John Kilgrove ? C'est moi-même, » répondit une voix douce, presque un murmure. « Monsieur Elliott, je suppose. »« Oui, en effet, c'est exact, » répondit Monsieur Elliott assez stupéfait. « J'ai reçu votre prospectus ce matin. » « Avez-vous pris une décision ?»« Absolument. J'aimerais inscrire mon fils dès que possible. Entre nous, Monsieur Kilgrove, David m'a causé une grande déception. Une immense déception. Depuis des années, j'attends qu'il marche sur mes pas. Enfin, du moins sur les traces de mon fauteuil roulant, puisque je ne peux pas marcher. Il va bientôt avoir 13 ans, et pourtant le métier de banquier ne semble pas du tout l'intéresser. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Elliott, » répondit la voix de son correspondant, apparemment dénué d'émotion. Après quelques trimestres à Groucham Grange, je suis certain que vous trouverez en votre fils une personne très différente. Quand peut-il commencer? Que diriez-vous d'aujourd'hui? Aujourd'hui? S'exclama Madame Elliott qui se tordait le cou pour écouter dans le récepteur. Monsieur Elliott lui en donna un coup, qu'il atteignit derrière l'oreille. Madame Elliott tomba à la renverse. Excusez-moi, Monsieur Kilgrove, reprit Monsieur Elliott. C'est juste la tête de ma femme. « Avez-vous bien dit « aujourd'hui »?»« Oui, il y a un train qui part de Liverpool Street pour King's Lynn à 1h cet après-midi. Deux autres élèves doivent le prendre. David pourrait voyager avec eux. »« Magnifique ! Voulez-vous que je l'accompagne ?»« Oh non, Monsieur Elliott, » répondit la voix d'un ton narquois. « Nous n'encourageons pas les visites des parents à Groucham Grange. Nos élèves réagissent plus positivement s'ils sont complètement détachés de leur cadre et de leur famille. » « Bien sûr, si vous désirez entreprendre ce long et fastidieux trajet... »« Non, pas du tout. Je le mettrai dans un taxi pour aller à la gare. »« Et puis non, à la réflexion, il prendra le bus. »« Alors nous l'attendrons ici ce soir. Au revoir, Monsieur Elliott. » La ligne fut coupée. « Ils l'ont accepté !» exulta Monsieur Elliott. Madame Elliott lui tendit le téléphone pour qu'il raccroche le récepteur. Ce faisant, il lui écrasa, accidentellement, 3 doigts. C'est alors que David entra, vêtu d'un t-shirt et d'un jean. Il s'assit nerveusement à sa place et tendit la main vers le paquet de céréales. Au même moment, son père avança brusquement et projeta le muesli par-dessus son épaule. Pendant ce temps, Madame Elliott plongeait ses doigts endoloris dans la carafe de lait. David soupira. Apparemment, il allait devoir se priver de petit déjeuner. « Tu n'as pas le temps de manger, » déclara Monsieur Elliott, « remonte dans ta chambre et fais tes bagages. » « Je pars où ?» demanda David. « Dans une merveilleuse école que j'ai trouvée pour toi. Emballe ta mère et embrasse tes affaires. Emballe tes affaires et embrasse ta mère. Ton train part à 1h. » Madame Elliott s'était mise à pleurer, sans savoir si elle pleurait parce que son fils partait, parce qu'elle avait mal aux doigts, ou encore parce qu'elle s'était coincée la main dans la carafe de lait. David savait que de toute façon, cela ne servait à rien d'argumenter. La dernière fois qu'il avait essayé, son père l'avait enfermé dans sa chambre et avait cloué la porte. Il avait fallu deux menuisiers et une brigade de sapeurs-pompiers pour le délivrer. En silence, David se leva et quitta la pièce. Il ne lui fallut pas longtemps pour faire ses bagages. Il n'avait pas l'uniforme du nouveau collège et ne savait quel livre emporter. Il n'était ni content, ni particulièrement triste. Après tout, son père avait déjà supprimé Noël, et quelle que fût cette nouvelle école, la vie ne pouvait y être pire que chez lui. Cependant, tout en rangeant ses affaires, David éprouva une curieuse sensation. On l'observait, il en était certain. Il ferma sa valise, se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Sa chambre donnait sur le jardin qui était entièrement décoré de plantes en plastique, car sa mère était allergique aux fleurs. Et là, au milieu de la pelouse artificielle, il le vit. C'était un corbeau, ou peut-être une corneille, en tout cas le plus gros oiseau qu'il eût jamais vu, noir comme du charbon. Ses plumes pendaient sur lui comme une cape en haillons. L'oiseau levait la tête et le fixait de ses yeux luisants. Au moment où David se pencha pour ouvrir la fenêtre, l'oiseau poussa un étrange croassement, prit son envol et s'éloigna au-dessus des toits. Alors David se prépara à partir.